Vous écoutez Radio France Internationale, il est 18h30 en temps universel, 19h30 à Paris et Kinshasa.
Afrique Soir.
Et c'est l'heure de retrouver la première édition d'Afrique Soir de ce mercredi. Elle vous est présentée par Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette demi-heure d'info africaine, le discours à la nation du président Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo. Premier discours devant les deux chambres réunies en congrès depuis sa réélection en décembre 2023 pour un deuxième mandat. Discours aux allures de bilan de l'année 2024. La Cour d'appel de Paris confirme le non-lieu dans l'enquête sur l'armée française au Rwanda. La Cour rejette les accusations de complicité de génocide visant les forces françaises et leur éventuelle inaction lors des massacres de Bicêtre en 1994. À la une également, une attaque djihadiste d'une rare intensité à Téra au Niger. Une centaine de soldats tués au cours de combats contre des djihadistes. Cet après-midi, des obsèques symboliques ont été organisées en hommage aux militaires tombés au cours de la fusillade. Nous reviendrons également sur les inondations d'avril dernier à Uvira, dans l'est de la République démocratique du Congo. La montée des eaux du lac Tanganyika a englouti des milliers de maisons. Depuis, le lac n'a pas retrouvé son niveau initial. Un expert en hydrobiologie nous expliquera pourquoi. Et on commence par l'adresse à la nation de Félix Tshisekedi ce mercredi en République démocratique du Congo. Premier discours du président et premier discours du genre depuis sa réélection pour un second mandat fin 2023. Et pour l'occasion, les deux chambres étaient réunies en congrès. Discours aux accents de bilan de l'année 2024. À Kinshasa, on fait le point avec Pauline Azidi.
Une ambiance survoltée avant le discours du président qui a beaucoup parlé d'économie. Une croissance à 6%, une inflation à 11%. Il faut continuer à diversifier les ressources selon le chef de l'État qui a vanté les réalisations de son pays.
Des routes, des ponts, des écoles, des hôpitaux, sans oublier la modernisation de nos aéroports. La République démocratique du Congo est un immense chantier, un pays en mouvement qui se construit un avenir radieux.
Félix Tshisekedi a évoqué ensuite la situation sécuritaire dans l'Est, rendant hommage aux militaires et leurs alliés, les milices Wazalendo, engagées contre les forces du M23 et du Rwanda, avant d'aborder le débat qui anime la classe politique congolaise, une éventuelle réforme constitutionnelle.
Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Cette démarche consiste uniquement à lancer une initiative visant à inviter nos compatriotes à une réflexion sincère pour bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités et aux aspirations de notre peuple.
Et le président de conclure, tout est possible à celui qui rêve, ose et n'abandonne pas. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Après plusieurs procédures successives, la Cour d'appel de Paris a confirmé ce mercredi le non-lieu général rendu en octobre 2023 dans l'enquête sur l'inaction reprochée à l'armée française à Bicêtre au Rwanda en plein génocide des Tutsis. Dans cette affaire, trois associations et des rescapés du massacre de Bicêtre accusent l'opération turquoise et la France de complicité de génocide pour avoir, selon eux, sciemment abandonné des civils Tutsis aux mains de leurs tueurs Hutu en juin 1994. Lisa Fabian était sur place pour RFI.
C'est un échec sur toute la ligne pour les parties civiles qui avaient fait appel de deux ordonnances dans cette affaire. Le non-lieu général clôt le dossier et empêche le renvoi devant la justice de plusieurs hauts gradés français, dont le général Lafourcade. Son avocat, maître Emmanuel Bidanda.
Cette décision met fin à près de 20 ans d'accusations particulièrement infamantes contre nos clients. On parle d'absence de charge. Il n'y a rien. Voilà. Le dossier, tout le monde le sait depuis des années, qu'il n'y a absolument rien dans ce dossier. On a essayé de manière tout à fait artificielle à le maintenir en vie contre toute évidence judiciaire. Donc c'est terminé.
Les parties civiles faisaient aussi appel contre le refus des juges de procéder à certains actes d'enquête. François Graner de l'association Survie.
Nous, on a toujours dit qu'il fallait interroger les responsables militaires à Paris, essentiellement le chef d'état-major de l'armée de l'époque, l'amiral Langsade, le conseiller militaire de Mitterrand. Il fallait les interroger pour pouvoir les renvoyer éventuellement aux assises. Et c'est cette démarche-là, ces actes-là, qui ont été demandés par les parties civiles, qui ont été systématiquement refusés par la justice. Et ça, pour nous, c'est un déni de justice.
L'association Survie indique qu'elle va poursuivre son combat judiciaire pour faire reconnaître les fautes de la France au Rwanda.
Compte rendu signé Elisa Fabian.
Niamey, 96.2 FM.
C'est l'attaque djihadiste la plus meurtrière perpétrée au Niger depuis 6 mois. Un assaut d'une rare intensité dans le département de Terra, mardi dans le village de Chatouman, situé tout près de la frontière avec le Burkina Faso. Une centaine de soldats nigériens sont morts au cours de combats contre des djihadistes. La fusillade a également coûté la vie à une cinquantaine de civils. Une situation qui a poussé l'état-major nigérien à se réunir en urgence ce matin. Cet après-midi, les autorités ont organisé des obsèques symboliques en hommage aux militaires tombés dans cette attaque. Le récit de Sidi Yansané.
À défaut de donner un bilan officiel précis du nombre de soldats tués à Chatouman, la hiérarchie militaire a rapatrié à Niamey les dépouilles de 10 hommes avant de les enterrer cet après-midi au carré des martyrs de la capitale, une manière symbolique de rendre hommage à l'ensemble des FDS tombés au combat la veille. Les affrontements ont eu lieu en plein milieu du marché bondé de cette localité du département de Terra. Les informations de RFI indiquent que des djihadistes à moto ont débarqué dans le village, bien plus nombreux que les militaires. Ils les ont pris en étau dans le marché, une opération visiblement planifiée. Selon des sources sécuritaires et médicales, au moins 90 soldats sont tués. La fusillade a aussi causé la mort d'une cinquantaine de civils. Le massacre n'a pas été revendiqué, mais la région de Tillabéri se situe dans la zone des trois frontières avec le Burkina Faso et le Mali, où sévit régulièrement l'État islamique dans le Grand Sahara. L'attaque de Chatouman est la plus meurtrière depuis celle du camp de Boni il y a 6 mois dans la même zone.
Merci, signé Sidi Yansané. Retour à présent sur l'opération menée hier par l'armée malienne et ses supplétifs du groupe Wagner à la frontière de la Mauritanie. Cela s'est passé très précisément à l'Agdaf, près de Fassala, dans une zone où le tracé de la frontière n'est pas évident. Une quinzaine d'hommes, majoritairement des Mauritaniens, ont été arrêtés. Pour rappel, des incursions du groupe Wagner en Mauritanie ont déjà eu lieu par le passé. Mais cette fois, selon les informations de RFI, les arrestations auraient eu lieu côté malien. Les précisions de David Baché.
De nombreuses sources local s'indigne d'une nouvelle incursion de Wagner et de l'armée malienne en Mauritanie et rapporte des mouvements de panique dans les villages de la zone. Mais plusieurs sources militaires mauritaniennes assurent que l'opération s'est bien déroulée côté malien et qu'il n'y a donc pas eu d'incursion. Toutes ces sources confirment qu'au moins une quinzaine d'hommes ont été emmenés par les Russes du groupe Wagner, une majorité de Mauritaniens et des Maliens. Les témoignages recueillis par RFI font également état de tirs. 2 jeunes hommes auraient été blessés avant d'être embarqués, d'au moins 4 voitures emportées et 2 boutiques saccagées par les hommes de Wagner. Ni l'armée malienne, ni les sources officielles mauritaniennes sollicitées par RFI n'ont souhaité commenter à ce stade. Le village de l'Ardaf, près de Fassala, se trouve sur une zone frontalière floue que Maliens et Mauritaniens traversent quotidiennement sans même en avoir conscience, expliquent certaines sources, qui ajoutent que des Mauritaniens sont même installés sur le sol malien. Ces dernières années, plusieurs cas d'incursions avérées de Wagner et de soldats maliens en Mauritanie ont suscité des tensions entre les deux pays, qui ont cependant conservé des relations stables.
En précision signée David Baché, et puis au Ghana, 4 jours après la présidentielle, l'équipe chargée de mener la transition a été officiellement installée ce mercredi. Ce matin, le président sortant Nana Akufo-Addo, qui achève son 2e mandat, a reçu John Dramani Mahama, président élu. Les 2 hommes affichent une volonté de travailler ensemble dans l'intérêt du pays. À Accra, le récit de Binta Diagne.
Le tête-à-tête a duré 30 minutes. Le président sortant Nana Akufo-Addo a félicité John Mahama pour sa victoire remarquable, selon ses mots. Il l'avait déjà appelé lundi pour lui proposer de mettre en place une équipe de transition. Le président Nana Akufo-Addo veut que le transfert d'autorité se fasse de manière fluide. Le Ghana doit continuer de fonctionner comme un État démocratique dans le respect de la volonté du peuple, a-t-il déclaré. Puis le président élu, John Mahama, a pris la parole devant une poignée de journalistes pour dire sa satisfaction. Il dit avoir eu un briefing sur la situation sécuritaire et sur l'économie. « Nous allons travailler ensemble dans l'intérêt du Ghana », a-t-il assuré. Tous les 2 estiment que cette première rencontre a été cordiale. L'équipe de transition se compose d'une 30 personnes. Elle est coprésidée par la chef de cabinet de Nana Akufo-Addo et le chef de cabinet de John Mahama. Côté gouvernement, les portefeuilles clés y sont représentés. Défense, finances, intérieur, justice, affaires étrangères. Du côté du président élu, il y a là ses proches collaborateurs et des cadres de son parti. Cette transition sera courte puisque John Mahama sera investi le 7 janvier prochain. Binta Diagne, Accra. RFI.
Le président allemand Frank-Walter Steinmeier est au Nigeria pour une visite de 2 jours. Il s'est entretenu avec son homologue Bola Ahmed Tinubu ce mercredi à Abuja, la capitale fédérale. Entretien portant sur le partenariat énergétique entre les deux pays. En Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé a demandé lors d'une conférence de presse aujourd'hui au président Alassane Ouattara de l'amnistier afin qu'il puisse se présenter à la prochaine élection présidentielle d'octobre 2025. S'il a en effet été acquitté par la CPI, il est toujours sous le coup d'une condamnation en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison pour des faits liés à la crise post-électorale de 2010-2011.
Fiona Ransou, 92 FM.
Et direction Madagascar, où 11,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leurs futurs maires et conseillers municipaux. Les bureaux de vote ont fermé. Pour l'heure, aucune tendance ne ressort encore clairement du vote, si ce n'est une mobilisation nationale plutôt timide. 22,4% de taux de participation à midi, selon SAFID, la plus grande mission d'observation électorale du pays. Une légère baisse par rapport aux élections de 2019 à la même heure. À Antananarivo, la capitale, le calme relatif de la matinée a été rompu au fil de la journée par des suspicions et tentatives de fraude. Le récit de la journée avec Pauline Le Troquier.
À quelques minutes de la clôture des urnes dans le quartier populaire de Manarnsou, l'ambiance contraste avec les incidents survenus ça et là, ailleurs dans la ville. Cette présidente de bureau de vote se félicite au contraire d'un processus exemplaire.
Il faut prouver à toutes les populations que ça se passe comme ça. À mon bureau de vote, pas de fraude, pas de discussion, même conflit, il n'y a pas.
À quelques ruelles de là, à Ndavamambe, l'ambiance est au contraire électrique dans la cour de ce centre. 7 individus sont fouillés puis arrêtés. Munis de cartes électorales irrégulières, ils sont soupçonnés d'avoir été, je cite, missionnés pour gonfler le score de la candidate du pouvoir. Un climat qui ne décourage pas pour autant cet électeur.
À mon avis, il y a toujours des fraudes à chaque élection. Ça, je suis bien conscient. Mais si on ne participe pas, on ne peut pas dénoncer. Je reviendrai plus tard pour le décompte. Je suis là pour contrôler.
Ce soir, la vraie inconnue du scrutin reste le taux de participation qui s'annonce timide à l'échelle de ce seul centre de vote, explique cet autre responsable.
Le taux de participation, ça c'est un peu moyen, quoi, on va dire. Parce que là, il est 17h. On est dans les 35%.
Dans la capitale, les opérations de dépouillement se déroulent dans le même climat de suspicion que la journée de vote. SAFID, la plus grande mission d'observation électorale sur l'île, pointe des cas de bulletins précochés et de bourrage d'urnes. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
La suspension critiquée de 3 ONG indépendantes de défense des droits humains en Éthiopie a été levée depuis le 14 novembre. L'organisme gouvernemental qui supervise les groupes de la société civile a adressé des lettres de suspension au Centre pour l'avancement des droits et de la démocratie, à l'Association pour les droits humains et aux avocats des droits humains, les obligeant à cesser leurs activités. Les missives accusaient ces organisations d'être politiquement biaisées et de se livrer à des activités qui, je cite, portaient atteinte à l'intérêt national. La suspension a finalement été levée ce mercredi. Ouvira, l'une des principales villes de la province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, est-elle en passe de disparaître? En tout cas, en avril dernier, la montée des eaux du lac Tanganyika a surpris de nombreux habitants. Plus de 2800 maisons ont été inondées, provoquant ainsi le déplacement de près de 35 000 personnes. 8 mois plus tard, la plupart de ces maisons sont toujours sous les eaux. Le lac n'est jamais redescendu à son niveau du printemps 2024. Reportage à Ouvira, Coralie Pierret.
Voilà maintenant 8 mois que Kaya Mouvumbi et sa famille n'ont pas dormi chez eux.
Donc là, c'était quoi avant?
On va voir si vous voulez. C'était des chambres, les garçons de ce côté et les filles de l'autre.
La moitié de sa maison est inondée. Le sol du reste de son habitation a été recouvert de sable pour éviter la boue.
Mais pour dormir, nous n'avons pas le choix. Nous allons à l'hôpital. Nous venons ici juste pendant la journée, quand on a des choses à faire. Mais ici, il y a de l'eau partout. Nous avons peur qu'elle s'écroule.
Après la montée soudaine des eaux du lac Tanganyika en avril dernier, les sinistrés n'ont toujours pas été relogés. Nombreux sont ceux qui vivent encore dans des familles d'accueil, reconnaît Kizam Wato, le maire de la ville d'Ouvira.
Avec la direction nationale, on est en train d'étudier comment relocaliser ces sinistrés du lac Tanganyika. Nous voulons changer que certains résidents, qu'une population puisse aller vers le nord suite à cette montée des eaux.
Des quartiers entiers, y compris en centre-ville, n'ont jamais pu être reconstruits. Les eaux du lac Tanganyika ne sont jamais redescendues à leur niveau du printemps. Coralie Pierret, de retour d'Ouvira, RFI.
Alors justement, pourquoi le niveau n'est jamais revenu à la normale, même pendant la saison sèche dans ce lac Tanganyika? Réponse avec le chercheur donatien Mozomani du Centre de recherche en hydrobiologie d'Ouvira. Il répond aux questions de Coralie Pierret.
On observe une montée progressive des eaux du lac Tanganyika depuis 2007. C'est une tendance lente, mais qui est continue. Et le niveau du lac n'est jamais rentré à 773 mètres, qui est son niveau initial. Maintenant, nous sommes au-dessus de 773 mètres.
Ça, ce serait dû aux fortes pluies qu'il y a eu dans le bassin versant du lac Tanganyika, c'est ça?
Il y a aussi le phénomène El Niño à l'océan Indien. L'évaporation qui se fait au niveau de l'océan Indien, s'il y en a beaucoup, ça affecte toute cette région. Et nous, on a beaucoup de pluie. Cette vapeur d'eau qui arrive raconte la chaîne de Mitumba ici et nous enregistrons des précipitations à notre niveau. Et c'est dans le bassin du lac Tanganyika.
Plus importante qu'il y a quelques années.
Exactement.
Quelles pourraient être les conséquences pour la ville d'Ouvira si cette montée des eaux venait en fait à continuer?
Il y a une phrase qui dit que si rien n'est fait, la ville d'Ouvira est tenue à disparaître. Les autorités le savent, la ville d'Ouvira est coincée entre le lac et la chaîne des montagnes. Elle est bâtie sur une plaine côtière du lac Tanganyika. C'est une zone de sédimentation où il y a eu des dépôts dans le passé et c'est là où se trouve la ville. Donc la ville est menacée à la fois par des rivières et par la montée du niveau du lac. Si le niveau du lac monte, et une bonne partie de la ville sera partie.
Est-ce qu'on peut prévoir ces crues ou prévoir ces catastrophes?
Bon, avec nos moyens, bon, il faut une assistance. Il faut une assistance. Il y a des réunions qui se sont faites, il y a des documents qui étaient produits, les plans de contingence, tout ça, comment réduire les conséquences. Et il faut former la population. Il faut bien cartographier les zones à risque dans la ville et communiquer aux gens les quartiers où il est interdit d'habiter et déplacer ces gens-là. Donc je pense qu'il faut lotir les endroits sûrs où on peut déplacer les gens et penser à le faire bien avant que les catastrophes n'arrivent.
Voilà donc pour les explications du chercheur donatien Mozomani pour ce dossier consacré aux inondations à Ouvira en République démocratique du Congo. Dossier signé Coralie Pierret. Dans l'actualité également, c'est officiel, la FIFA a validé la candidature Maroc-Espagne-Portugal pour l'organisation de la Coupe du Monde de football 2030. L'instance tenait aujourd'hui son congrès extraordinaire, rencontre réunissant l'ensemble de ces fédérations qui ont voté à l'unanimité pour le projet Yala Vamos. Les précisions de Mathias Reynal.
L'annonce a été faite par le président de l'instance en personne, Gianni Infantino, qui a animé une visioconférence. Il faut préciser qu'il n'y avait aucun suspense. La candidature tripartite ibéro-marocaine était la seule en lice depuis un an. Trois matchs se joueront par ailleurs au Paraguay, en Uruguay et en Argentine pour célébrer les 100 ans de la compétition. Intervenant dans une vidéo préenregistrée, le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi Lerja, a exprimé sa reconnaissance. Il a remercié la FIFA d'avoir eu confiance dans son pays. Une confiance qui, dit-il, témoigne des avancées réalisées tant au niveau des préparatifs qu'au niveau du développement global du pays. Le royaume qui se prépare depuis des mois. Ces grands stades sont tous en rénovation. Le Maroc a entrepris également la construction de la plus grande enceinte du monde avec 115 000 places près de Casablanca. Le futur stade Hassan II qui est en lice pour accueillir la finale. Galop d'essai avant le mondial pour le Maroc. Il organisera la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Mathias Reynal, Casablanca. RFI.
Et puis, sachez que le Mondial 2034 a lui été attribué à l'Arabie Saoudite. À l'écoute de Radio France Internationale, il est 18h49 à Abidjan. Et direction la Côte d'Ivoire pour un coup d'œil à la vie des cygnes. Première exposition individuelle de l'artiste malien Abdoulaye Konaté. Abdoulaye Konaté, pionnier de l'art contemporain ouest-africain. Il a choisi la toute jeune galerie Farah Fakhri dans le quartier d'affaires du Plateau pour exposer ses vastes œuvres textiles aux motifs abstraits. Abstrait reportage de notre correspondante à Abidjan, Marine Jalin.
La série est composée de 7 toiles monumentales de plusieurs mètres de haut, faites de bandes de tissu cousu et assemblées pour former des dégradés et des motifs complexes dans les tons bleus, noirs, rouges ou verts. Exposé Abdoulaye Konaté, c'est un rêve de longue date qui se réalise pour la galeriste Farah Fakhri.
Pour mes 40 ans, mon mari savait que j'adorais Abdoulaye Konaté.
et il m'a offert une œuvre d'Atolai Konaté. Et lors d'une rencontre, j'ai exprimé notre souhait de créer une exposition individuelle en Côte d'Ivoire pour présenter son travail, parce que ses œuvres textiles murales n'avaient jamais été vues lors d'une exposition individuelle en Côte d'Ivoire. Et ensemble, nous avons travaillé sur cette exposition qui a pris quelques mois, avec beaucoup de recherches qui ont été faites par Abdoulaye Konaté sur le textile ivoirien.
À 72 ans, l'artiste confirmé propose une œuvre aboutie, recherchée dans les moindres détails. Abdoulaye Konaté a collaboré avec une équipe d'une dizaine d'assistants, mais la création de chaque pièce a demandé 2 à 9 mois de travail. En plus de ses recherches documentaires sur l'artisanat textile de Côte d'Ivoire, il indique s'être nourri d'influences ouest-africaines.
J'essaie de créer moi-même de nouveaux motifs en m'inspirant des anciens. Au niveau de la teinture, c'est au niveau local. Beaucoup d'ateliers de teinture existent à Bamako. Et puis, je me suis inspiré de la tenue des musiciens Senofo, Korodouga au Mali. Les motifs sont travaillés au sol. Après l'étape du sol, qui est un travail à la main avec l'aiguille, on passe au niveau de la machine à coudre. Et la dernière partie revient encore au sol pour fixer certains éléments.
Le vernissage, le 5 décembre, était suivi le lendemain d'une discussion publique avec Orine Koumo, directeur en charge des arts plastiques et visuels au ministère ivoirien de la Culture.
Et au plan plastique, au plan graphique, c'est tout un travail remarquable parce que derrière les couleurs, il y a du dessin, il y a toute une construction qui épouse autant l'abstraction géométrique et les séquences d'abstraction lyrique. En tout cas, c'est un travail important que nous saluons et nous sommes très heureux de sa présence ici en Côte d'Ivoire parce que ce travail, il assurera donner un partage aux jeunes générations et surtout aux étudiants.
La série sera exposée pendant 2 mois à la galerie Farah Fakhri jusqu'au 8 février 2025. Marine Janin, Abidjan, RFI.
Voilà, donc reportage à Abidjan de Marine Janin. Abidjan, où il est actuellement 18h52. Sans transition, Foulou Miziki Collective, le son des poubelles, autrement dit en Lingala. C'est un collectif d'artistes afro-futuristiques punk venus tout droit du quartier de Ngwaka à Kinshasa. Ils ont passé l'année 2024 à sillonner les routes d'Europe pour défendre Mokano, leur dernier disque. Un disque d'une grande créativité à l'énergie communicative que Pierre Vallée nous fait découvrir.
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette loi de la science physique pourrait être la devise de Foulou Music Collective. S'ils ne sont ni les premiers ni les seuls en Afrique à fabriquer leurs instruments à partir d'objets mis au rebut, ils se distinguent car eux n'utilisent que ça. Pas de machine et très peu d'amplificateurs pour les accompagner. Et pour aller jusqu'au bout de leur démarche, les objets qu'ils trouvent servent aussi à fabriquer les masques et les costumes de scène, indispensables à créer l'ambiance afro-futuriste de leur spectacle. Les membres de Foulou Miziki Collective ont grandi à Kinshasa, dans le quartier de Ngwaka, un quartier pauvre qui accueille une immense décharge à ciel ouvert. De cette mauvaise fortune, ils ont fait une chance. Et si leurs instruments fabriqués de briques et de brocs ne sont pas des exemples de précision et de justesse, cela ne fait que souligner leur excellent travail sur le chant et les harmonies vocales. Leur style mélange à la fois de la rumba, du punk, du reggae, du hip-hop, du rock, de l'électro, du disco, de la house ou encore du soukous. Un cocktail explosif qui enchante autant les oreilles que les yeux et qui est parfaitement indéfinissable. Mais peu importe, l'énergie est là, communicative, support de leur message, dénoncer la pollution, prôner la libération panafricaine et la réconciliation de l'homme et de la nature. Sala sala, bawela ne bango basanga.
Biziki, collectif des artistes afro-futuristiques punk, en concert le 13 décembre à Bourges, dans le centre de la France. Merci de rester à l'écoute de Radio France Internationale en direct de Paris où il est actuellement 19h57. Quelques rendez-vous à retenir avant de refermer cette édition. Et à 19h10, temps universel, les Européens font de moins en moins d'enfants et la Hongrie n'échappe pas au problème. À son retour au pouvoir en 2010, Viktor Orban a mis en place une série d'aides destinées aux familles des classes moyennes, sous strictes conditions. Cela n'a pas fonctionné. Le président l'a lui-même reconnu d'ailleurs. La baisse de la natalité se poursuit malgré tout ce dispositif d'aide. C'est notamment ce que nous raconte Martin, père de 3 enfants et bientôt 4.
On a eu le prêt bébé, c'est environ 25 000 euros. Et puis on a eu un autre prêt qui s'appelle Choc. Le prêt bébé, on peut le dépenser comme on veut. Mais le Choc, c'est seulement pour acheter ou construire un logement. Et si on s'engage à avoir 3 enfants, eh bien les crédits se transforment en dons.
Voilà, reportage en Hongrie à retrouver dans Accent d'Europe à 19h10, temps universel ou en podcast sur le site de RFI ou l'application Pure Radio. Et puis à 19h40, temps universel, le grand reportage bien sûr, avant Couleur Tropicale avec Claudie Sciard et Keblack qui présente Focus, son nouvel album. Un album sorti le 22 novembre dernier, un opus qui marque le retour de l'artiste après une longue période de remise en question sur sa place dans l'industrie musicale. On écoute tout de suite Boulot.
Regarde-moi dans les yeux, l'amour et la haine, je connais les deux. Je suis rentré dans sa tête, comment te passer de moi, je t'en joue une bœuf. On connaît ton équipe, tes bougies sont grave à la masse. Heureuse comme dans Corrida, la petite ne veut pas une relation de master. Quand même peu que pour elle, la petite la souhaite ma bague. Ou elle souhaite la bague, mais j'ai pas étudié my bag. Elle appelle sur mon tel avec un autre nu, c'est bizarre. Et comme Jacques à la paille, elle m'envoie des mais c'est bizarre. Je crois que la petite veut me faire un boulot. Elle veut me faire un boulot.
Voilà, Boulot de Keblack à 20h10, temps universel dans Couleur Tropicale. Ainsi s'achève cette première édition d'Afrique Soir. L'info continue sur Radio France Internationale avec à suivre dans un court instant un nouveau journal largement consacré à l'actualité dans le reste du monde.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
réunion du partenariat pour la couverture santé universelle de l'OMS à Lyon.
Vendredi,
question de femmes, les accidents de la vie courante.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. Demain sur RFI, de vive voix, Nathalie Amar.
L'une a laissé derrière elle sa Syrie natale, l'autre un Paris chargé de trop de souvenirs douloureux. Elle se retrouve par le plus grand des hasards dans un hameau isolé des Pyrénées. C'est l'histoire d'une renaissance que nous raconte Marie Pavlenko dans Traverser les montagnes et venir naître ici.
Écoutez De Vive Voix du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.